Lizzie présente Dans les brumes de Caplan de Olivier Norek, lu par François Montagu. Au major, comme tu me l'as demandé, je veille sur lui. Prologue en trois prénoms. Anna. 1. Nichée dans son berceau, au fil des rêves, ses yeux roulant sous ses paupières, il n'est rien de plus imparfait, de moins abouti, de plus fragile qu'un nourrisson. Il n'était pas plus grand que les peluches qui l'entouraient, et son souffle irrégulier était si léger que j'avais dû poser la main sur son ventre pour le sentir s'élever doucement sous sa respiration. Au sommet de sa tête, le crâne informe n'était pas encore soudé et laissait là l'espace de la fontanelle sans plus de protection qu'une fine membrane. J'aurais pu, si je l'avais voulu, y plonger mon doigt sans effort, comme dans un fruit mûr. Je l'avais soulevé avec mille précautions. Le bébé s'était agité un instant à la lisière du réveil, puis, rassuré par le cocon protecteur que formaient désormais mes bras, il avait sombré à nouveau dans le sommeil. Nous avons quitté sa chambre, et au milieu du couloir, mes pas amortis par le lit d'une moquette épaisse, j'ai entrebâillé la porte de celle de ses parents. Il dormait, épuisé, rassuré par l'artificielle sécurité que constituent les quatre murs d'une maison. Leur bébé entre mes mains, j'ai regardé ce couple, elle et lui. Au matin, ils ne seraient plus. Décharnés, vides, fantomatiques. Tout ce qu'ils vivraient d'heureux, tout ce qu'ils verraient de sublime, serait anéanti par une absence. Ils ne traceraient plus que des lignes de vie parallèles, sans plus jamais se croiser, ni se retrouver. Ils deviendraient des instruments désaccordés à jamais. 2. Le matin suivant. L'effervescence ne semblait pas les atteindre. Il y avait là différents services de police à la tâche et nombre de policiers en civil dans chaque pièce, mais si le couple assis sur le canapé avait dû raconter la scène, ils auraient donné à chacun des étrangers présents le même visage, le même costume, et les auraient fait parler de la même voix. Ses parents répondaient mécaniquement aux questions sans même le réaliser, depuis qu'un pilote automatique avait pris les commandes de leur cerveau anesthésié, comme flottant dans un bocal de formol. « Non, nous n'avons rien entendu. Non ?» Nous n'avions pas fermé la porte de notre maison, nous ne le faisons jamais, personne ne le fait dans notre quartier. Oui, nous avons une alarme, mais avec le temps, les craintes s'estompent, on ne fait plus l'effort. Oui, c'est absurde. Même le babil innocent de leur nouveau-né, confortable dans son petit fauteuil balancelle posé à leurs pieds, ne réussissait pas à les sortir de leur torpeur. « J'ai senti un mouvement sur les draps, » avait soufflé le père. « Puis ses pleurs nous ont réveillés d'un coup, et il était là, entre nous. Il était un peu moins de 6 heures du matin au réveil. » L'instant suivant, racontèrent-ils, une seconde à peine, s'était étiré en plusieurs actes. 5 exactement, comme dans les tragédies. « Je vois mon bébé. Il sourit, semble aller bien. » Que fait-il là? Il est impossible qu'il soit là. Qui l'a posé là? Car à moins d'une fabuleuse précocité, il aurait été impossible à un nourrisson de 8 mois de se lever sur ses jambes, d'escalader les barrières de son berceau, de marcher jusqu'à leur chambre, puis enfin de monter sur leur lit. Et encore moins probable que leur fille de 14 ans l'ait mis là, entre eux, en le laissant sans surveillance. Ainsi, à la fin de cette interminable seconde, il était apparu évident que quelqu'un était entré dans la nuit. Alors d'un bond, la mère s'était levée et avait foncé au bout du couloir, ouvert la porte à la volée pour y découvrir un lit vide, couette en boule sur drap froissé. Maintenant, dans la chambre de leur fille, rien ne manquait que leur fille. 14 ans, soufflée il y a une semaine sur un gâteau blanc qui portait son prénom d'une maladroite écriture au chocolat, Anna. Anna Bailly, 14 ans, disparue dans la nuit du 16 mai. Tenue vestimentaire ignorée, 1m53, corpulence fine, cheveux châtain clair, mi-long, type européen. Répétait-on à la radio-police pour ne commettre aucune erreur dans la rédaction de l'alerte enlèvement. À la description s'ajouterait une photo d'Anna avec ce visage si étrange qui la rendait unique. En sursis, les souliers élimés du capitaine Russo vivaient leur dernière semaine et piétinaient sans égard les quelques fleurs du jardin des baillis. Le policier avait pourtant des manières et du savoir-vivre, mais le fait était là. Il n'avait pas vu ses pieds depuis bien longtemps. Son ventre énorme entamait une bonne partie de son champ de vision et son cœur vaillant pompait comme il le pouvait pour que la machine avance. Encore harassé d'avoir dû à plusieurs reprises monter et descendre le seul étage de la maison, passant du salon aux chambres et faisant le chemin inverse, il respirait aussi fort qu'un soufflet de forge et donnait l'impression d'un phoque asthmatique. Asthmatique mais catégorique. « Ça ne colle pas !» Là-haut, dans la chambre d'Anna, une fois l'identité judiciaire passée, et après qu'elle eut couvert de poudre noire la moindre surface pouvant receler une empreinte digitale, les subalternes du capitaine se mirent à l'œuvre. Chaque roman de sa bibliothèque, qui couvrait tout un mur de sa chambre et étonnamment imposante pour une jeune fille de son âge, était feuilleté à la manière des livres animés dont on laisse filer les pages en accéléré pour qu'ils prennent vie. Chaque poster était détaché et retourné. Chaque vêtement était inspecté. Les poches, s'il y en avait, étaient vidées. Les spécialistes informatiques avaient déjà éventré l'ordinateur et le téléphone portable d'Anna, cherchant dans leurs entrailles le poison qui aurait pu s'y cacher et peut-être offrir un début d'explication à sa disparition. Puis, en 2 fausses notes, la partition entière dérailla. Sur la porte, vers la moitié haute, 4 minuscules trous avaient écaillé la peinture. Pas plus grands que ceux que 4 petites vis auraient creusés. L'emplacement probable jadis d'un verrou, mais fixé à l'extérieur. Un verrou pour enfermer. Et la question perturbante était venue à l'esprit de tous. Qui enferme sa môme? Ainsi pouvaient se justifier les rangées interminables de livres de sa bibliothèque. Une façon de s'évader lorsque l'on est cloîtré, de se transporter ailleurs, au-delà des murs de sa chambre condamnée. Puis on découvrit le journal intime de la jeune fille. Peut-être assez planqué pour résister à la perquisition d'un père ou d'une mère, pas assez pour celle de flics aguerris. Sur le dessus, pas de stickers colorés, pas de message rêveur au feutre brillant, ni d'étoiles filantes d'un bord à l'autre de sa couverture. Un journal sans magie, sans innocence. Noirci d'une écriture serrée, précipitée, inquiète d'être interrompue, on pouvait l'imaginer rédigée à la hâte, à la lueur d'une lampe de poche, et la première page commençait ainsi. « Ma mère sait ce que mon père me fait. » Le père, justement, était passé devant la chambre de sa fille. Et lorsqu'il aperçut à la fois le journal soigneusement glissé dans un sac à sceller, puis ce flic de l'identité judiciaire qui zoomait sur le verrou extérieur afin d'en avoir un cliché parfait, son regard avait accroché ses pompes pour ne plus les quitter.